Bien, prenons nos Bibles et regardons ensemble dans l'Évangile selon Jean et le chapitre 7. Aujourd'hui, mon texte est tiré du verset 17 jusqu'au verset 27. Et je voudrais vous parler de la ruse de l'incrédulité. Nous vivons d'abord avec des cœurs incrédules en nous-mêmes, et puis nous vivons dans un monde plein d'incrédulité en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette incrédulité ne se manifeste pas toujours comme on peut l'imaginer, parce que la ruse de l'incrédulité, c'est que c'est souvent couvert par la religion ou bien par une marche extérieure qui semble aux hommes d'être vraiment quelque chose de bien, pourtant c'est ce que la Bible condamne. Donc nous allons voir comment cela s'est manifesté ici parmi ceux qui s'approchaient du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était ici à Jérusalem pour la fête des tabernacles, et il donnait l'apparence d'être enfant de Dieu, selon leur profession, selon leur dire. Pourtant, c'était une couverture, voilà la ruse, une couverture de la haine pour Christ et de l'incrédulité. C'est pourquoi Christ dit dans le verset 17, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Donc ils accusaient le Seigneur Jésus-Christ lui-même d'être le diable, d'être quelqu'un qui mentait et qui ne faisait pas l'œuvre de Dieu. Ce sont des attaques qu'ils adressaient au Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi dans le verset 16 que nous avons vu la dernière fois, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Donc voilà le premier point concernant la ruse en ce qui concerne la position des hommes par rapport à Christ ou à Dieu. Ils cherchent leur propre gloire. C'est ça que nous ne pouvons pas voir nécessairement ouvertement. Les gens font des actes de dévotion ou d'adoration. Ils marchent d'une certaine manière de l'extérieur et ils prétendent que tout cela c'est pour la gloire de Dieu. Pourtant, ils font pour leur propre gloire. Donc le mobile du cœur dit tout. Et tout cela est caché des yeux des hommes. Mais Christ dit, celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 7 et verset 18, est en train de rendre son propre témoignage de pourquoi il est venu et pour qui il est venu. D'abord, tout ce que Christ faisait dans son ministère en tant qu'homme, il est venu dans la chair, mais il ne faisait pas pour sa propre gloire, mais pour la gloire de son Père. Il est venu afin d'accomplir la loi à l'égard de ceux que le Père lui a donné depuis l'éternité, et de satisfaire à la loi et la justice de son Père, afin que Dieu soit juste, tout en déclarant juste ceux pour qui il a accompli cette loi, non seulement les préceptes de la loi, mais aussi la pénalité, c'est-à-dire pour payer la dette du péché, il fallait qu'il meure, qu'il donne sa vie, mais qu'il donne sa vie de la manière que le Père a ordonné et non selon les dictées des hommes. Parce que c'est évident ici, les gens le détestaient. Ils ne voulaient pas que Christ vive. Ils cherchaient à le faire mourir. Mais personne ne pouvait le faire mourir jusqu'au moment où Dieu lui-même l'a remis aux mains de ses hommes impies et ils l'ont pris et ils l'ont crucifié, mais toujours selon le dessein arrêté de Dieu. Ils n'ont pas pu faire plus ou moins à Christ, croire qu'il y avait en eux cette incrédulité, mais ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit tant que Dieu lui-même, le Père, l'a ordonné. Et c'est pourquoi Christ dit ici dans le verset 19, Jean 7, Moïse, ne vous a-t-il pas donné la loi? Et voilà le point clé de leur incrédulité, parce qu'ils se fiaient à Moïse, et ils se fiaient à leurs observations de la loi selon eux. Mais Christ dit ici, et nul de vous n'observe la loi. C'était des gens qui aimaient prêcher la loi aux autres. Mais en ce qui concerne leur attitude ou bien leur pratique par rapport à cette loi, ils se montraient par là, même par leurs actions, comme des incrédules. Il dit, nul de vous n'observe la loi. Et ça, c'est une vérité. Il y a des gens qui prétendent être des maîtres de la loi et ils aiment appliquer ça aux autres. Pourtant, eux-mêmes, ils sont condamnés par cette loi. Et surtout ici, le fait qu'ils voulaient faire mourir le Seigneur Jésus. Pourtant, la loi dit clairement, vous ne tuerez personne. C'est interdit de tuer qui que ce soit. Pourtant, à cause de cette incrédulité au sujet de Christ, ils mettaient à côté cette loi. Ils se justifiaient dans leur désir de faire mourir le Fils de Dieu, de faire mourir le Seigneur Jésus. Et je trouve ça, quand je prêche dans différents milieux, où les gens se vantent d'être les observateurs de la loi. Ils prétendent qu'ils sont des exemples en observant la loi. Pourtant, quand vous arrivez dans le milieu et vous prêchez que nul n'est juste devant Dieu, comme Christ a dit ici, nul de vous n'observe la loi. Ça, c'est le point clé de son message. Que tous sont privés de la gloire de Dieu et sont condamnés par cette loi. Et puis, en deuxième lieu, de leur dire que c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ et son obéissance à la loi qui sauve. Non seulement son obéissance dans la vie, mais en payant la dette par sa mort, et qu'en dehors de Christ et de son œuvre accomplie à la croix, il n'y a pas de salut. Quand vous commencez à prêcher de cette manière, et en plus ajouter le fait que cela n'est pas pour tout le monde, que c'est Christ qui sauve qui il veut selon la volonté de son Père. Dans sa prière sacerdotale dans Jean 17, verset 9, il a dit ça, « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. » Voilà ce qui fait fâcher davantage et qui enlève cet habillement de faux une fausse justice que les hommes portent comme habillement et qui expose maintenant réellement ce qui est au cœur. Voilà ce que Christ fait ici. Et vous voyez leur réaction dans le verset 20. Encore, la ruse de l'incrédulité, c'est la lumière qui brille dans les ténèbres et qui expose cette haine qui est là. Alors, le fait que Christ ait dit cela, la foule répondit. Donc, ce n'est pas seulement les dirigeants, mais maintenant la foule, ceux qui suivaient ces hommes religieux. La foule répondit, tu as un démon. Imaginez, préférer croire en sa propre justice, ses propres œuvres, et dénoncer Christ, le Fils de Dieu, comme un démon. Voilà jusqu'à quel point cette incrédulité réside dans les cœurs des pécheurs. Et je dois dire que si ce n'était par la grâce de Dieu seul, nous serions de ce nombre, de cette foule. Parce que je dois dire que le Christ de la Bible n'est pas un Christ que nous pouvons recevoir sans qu'il y ait cette révélation de l'Esprit au cœur. Nous sommes nés dans ce monde, dans cet état d'incrédulité. Et il faut l'œuvre de l'Esprit de nous révéler Christ en toute sa gloire. Et alors, nous croyons. Et voilà des gens qui prétendaient être des enfants de Dieu et qui avaient une forme extérieure de faire la volonté de Dieu, mais Christ leur dit déjà que celui qui fait la volonté de Dieu est celui qui croit au Fils et qui trouve tout son salut dans le Fils, le Seigneur Jésus. Alors, ils disent, tu as un démon. Et puis, ils ont, voilà la ruse de l'incrédulité. Parce que, au lieu d'admettre que oui, c'était ce qui est au cœur, cette haine pour Christ, ils disent, qui est-ce qui cherche à te faire mourir? C'est comme les gens aujourd'hui, quand on leur annonce le véritable Christ de la Bible, et la lumière est portée sur leur incrédulité, ils vont répondre, non, 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 ce n'est pas que je n'aime pas Christ. Ils disent, je n'ai pas de la haine au Christ seulement, je ne peux pas supporter le Christ que vous prêchez. Et là, il faut dire, mais combien de Christ est-ce qu'il y a? Il n'y a qu'un seul. Et si le Christ que nous croyons n'est pas celui qui est clairement révélé ici dans les Écritures, il faut dire que nous sommes incrédules. Mais eux, ils cherchaient à couvrir leur incrédulité. Voilà la ruse. Ils cherchaient à refouler ce que Christ leur disait clairement. Mais Christ est la vérité. Il est la lumière. Donc, où il se révèle aux pécheurs, on ne peut pas cacher ce qui est au cœur. Alors, Jésus leur répondit dans le verset 21, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. » L'œuvre dont il parlait là, c'était la guérison de cet homme qui était à côté de la piscine, Bethesda. Et ils étaient toujours en train de parler de ce miracle-là. Et Christ leur dit ici, « J'ai fait une œuvre. » Et vous en êtes tous étonnés. Voilà un point qu'il faut comprendre, c'est que les miracles ne convertissent pas les pécheurs. Il faut l'œuvre de l'Esprit dans sa grâce à travers la parole. C'est ça qui convertit les pécheurs. Christ n'a pas fait les miracles pour que les gens maintenant croient en lui. Donc, il faisait des miracles pour prouver qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Il était véritablement le Messie, celui qui devait venir selon l'Ancien Testament. Et même malgré tout cela, les gens ne croyaient pas en lui. J'entends certains dire aujourd'hui, mais si le Seigneur Jésus pouvait revenir de nos jours et marcher dans nos rues et faire ce qu'il a fait au premier siècle, ah voilà, beaucoup allaient croire en lui, et je dois dire non. Ils n'ont pas cru en lui au premier siècle, et quel que soit le nombre de miracles que Christ faisait, cela ne tournait pas les cœurs à lui. Ça ne faisait que les endoucir davantage. Parce que, en faisant cela, Christ montrait qu'il était véritablement le Christ. Mais les gens préféraient se fier à leur observation de la loi que de se reconnaître pécheurs et confesser leurs besoins de Christ. Voilà, pour moi, la preuve d'une véritable œuvre de grâce dans le cœur, c'est lorsque l'Esprit nous montre que face à la loi, face à la gloire de Dieu, nous ne sommes que des pécheurs condamnés, misérables. Et l'Esprit tourne nos cœurs ainsi vers le Seigneur Jésus-Christ et nous demandons de lui la grâce et la miséricorde, reconnaissant que tout le salut réside entre ses mains et dans sa personne et dans son œuvre. Donc Christ, en parlant ainsi dans le verset 21 de Jean 17, montre que toute leur attitude envers lui n'est pas la véritable foi. Il y a une différence. Ce n'est pas la profession que les gens font de leur bouche, de leurs lèvres qui est la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les voilà devant celui qui est venu sauver son peuple, mais ils étaient aveugles. Pourtant, ils s'étonnaient des miracles qu'ils faisaient. Mais pour cela, Christ ne se fiait pas à eux, comme nous avons déjà vu plus tôt dans Jean chapitre 2. Lorsque Christ dit dans le verset 24, Jésus ne se fiait point à eux, et tout cela dans le verset 23, pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, même chose ici. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Et voilà le point. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. On peut peut-être cacher des choses de d'autres personnes autour de nous. Mais Christ étant la vérité connaît le cœur des hommes. Et il voit leurs ruses. Et comme au départ, lorsque Adam et Ève ont désobéi, ils se sont efforcés à se couvrir avec des feuilles de figuier leur nudité, mais cela ne pouvait pas satisfaire comme une couverture. Il fallait que Dieu enlève cette fausse couverture et qu'il tue des victimes innocents et il les couvre avec leur peau. C'était une représentation de l'œuvre que Christ devait accomplir lorsqu'il est venu dans le monde pour satisfaire à la justice de Dieu. Mais l'homme préfère garder cette fausse couverture de son obéissance personnelle que de se soumettre à la loi et voir pourquoi Dieu a donné cette loi. Dieu n'a pas donné sa loi comme moyen de salut. Il a donné sa loi, comme c'est écrit dans Romains chapitre 3, afin que toute bouche soit fermée. Voilà ce que nous voyons ici. Leur bouche n'est pas fermée. Ils sont toujours en train de répondre, attaquer aux paroles de Christ. Tant que le pécheur est en train de répondre et se justifier, c'est évident que sa bouche n'est pas fermée. Et qu'il n'a pas encore vu sa culpabilité face à la loi. Nous ne prêchons pas la loi comme moyen de salut, mais afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Mais ici, ce que Christ fait, il est en train de leur montrer que cette loi dans laquelle ces gens se fiaient, en fait, les condamnait. D'abord par leur attitude, parce qu'il faut savoir, ce n'est pas seulement ce que nous faisons ou ce que nous disons, mais c'est ce que nous pensons. Ça juge même les attitudes du cœur. Et voilà ce que Christ est en train d'exposer ici. Il leur dit ça dans le verset 22. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, même avant Moïse. L'acte de circoncision a été donné à Abraham. Et il leur dit, vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Le point ici, c'est que cet homme qui l'a guéri, mentionné dans le verset précédent, où Christ a dit dans le verset 21, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Lorsqu'il a guéri cet homme à côté de la piscine de Bethesda, le point pour eux, c'est que Christ a fait ça le jour du sabbat. Et puisqu'ils détestaient Christ déjà dans leur incrédulité, alors ils ont fait de cela leur propre loi. Ils ne devaient pas guérir le jour du sabbat. Donc, Christ revient, prenant leur raisonnement, et leur dit que lorsqu'ils, eux, ils circoncisaient un homme ou un enfant, ils faisaient ça le jour du sabbat. Et le verset 23, si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Et voilà, il est en train d'exposer maintenant leur incrédulité. Bien, encore sous guise de leur religion et leur soi-disant obéissance à la loi, pourtant, ils étaient en train de juger Christ sur une autre base. Et ça même démontre l'incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité si ce n'est la haine? Ici, il dit, pourquoi, verset 23, irritez-vous contre moi? Toute incrédulité est contre Christ. Et c'est pourquoi je dis souvent, si vous voulez savoir si réellement quelqu'un est un croyant, on utilise ce terme, il est un croyant en quoi? D'autres disent, mais je crois en Dieu, pourtant je ne crois pas au Fils de Dieu. Bon, ça c'est l'incrédulité. Ça ce n'est pas la foi. Mais si vous voulez vraiment savoir ce qui est dans le cœur de quelqu'un, il suffit de leur annoncer le Christ de la Bible tel qu'il est. Je reviens souvent là-dessus, que l'évangile concerne qui est Christ, selon la Bible, et pourquoi il est venu dans ce monde. La manière que les gens répondent à cette question démontre si oui ou non ils sont dans la foi. Et pour qui il est venu dans ce monde? Ça, c'est une question clé aussi. Est-ce qu'il est venu pour sauver tous les êtres humains, ou bien il est venu accomplir la volonté de Dieu à l'égard de ce que le Père lui a donné depuis l'éternité. Quand vous faites cette distinction dans la prédication, c'est là que vous allez voir si, oui ou non, Dieu a déjà fait son œuvre de grâce dans le cœur. Et encore la question, qu'est-ce qu'il a accompli lorsqu'il est venu dans ce monde? Est-ce qu'il a simplement posé sa mort comme une offre maintenant pour les gens d'accepter, ou bien sa mort était réellement une réconciliation devant Dieu pour un peuple particulier? Ou bien c'est une simple offre du salut. Voilà comment Christ est prêché aujourd'hui. Il a donné sa vie, mais maintenant c'est à vous de l'achever et de l'appliquer à votre cœur pour que ça soit efficace. Il y a une différence. Mais je dois dire que quand vous commencez à prêcher avec précision sur ces points, c'est là que vous allez voir si réellement quelqu'un connaît le Seigneur Jésus par la grâce de Dieu. C'est tout ce que Christ est en train de faire ici, exposer leur incrédulité qui est cachée sous une extérieure, une manière de marcher, de professer leur croyance, où dans, au fond, il y a cette haine pour Christ. C'est pourquoi il dit dans le verset 24, « Ne jugez pas selon l'apparence. » C'est comme ça que beaucoup jugent. C'est, il y a des gens qui vont quelque part, se réunissent dans une assemblée, qui font une profession de foi et qui marchent d'une manière assez droite devant les hommes, alors ils disent, ah voilà, ça c'est un bon chrétien. Mais ici, il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ça ne dit pas là la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Ce qui détermine si réellement quelqu'un est juste devant Dieu, c'est selon la justice de Dieu. Et la justice de Dieu déclare que nul n'est juste devant lui, si ce n'est ceux pour qui Christ a accompli cette justice. Il s'est rendu lui-même obéissant à l'égard de ces pécheurs que le Père lui a donnés. Et le reste, même s'ils disent qu'ils sont justes devant Dieu, en réalité c'est de l'injustice. Et cette injustice ne fait que couvrir leur incrédulité. Alors tout cela doit être exposé, doit être découvert à la lumière de Christ, de qui il est. Donc quelques habitants de Jérusalem disaient, verset 25, « N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir ? Toutefois que la vérité est annoncée, il y a toutes sortes de réactions. Il y a ceux qui s'étonnent. Ils entendent la vérité, mais laissés à eux-mêmes, puisque l'Esprit n'a pas encore révélé Christ en eux, alors ils ont cette réaction, mais est-ce que ce n'est pas lui qu'ils cherchent à faire mourir, et ils s'étonnent que Christ est parmi eux, et qui déclare cette vérité contre leur pensée, et ces gens ont le désir de le faire mourir, pourtant aucun ne pouvait le toucher, puisque ce n'était pas encore l'heure à laquelle Christ devait mourir. Donc vous aurez cette réaction, vous aurez aussi non seulement ceux qui s'étonnent, mais ceux qui manifestent davantage leur haine. Ils se fâchent. Peut-être au départ, ils étaient calmes, et ça peut être même des gens dans nos assemblées qui viennent, ils chantent, ils lisent la Bible, ils prétendent avoir eu une conversion, Mais puisque Christ est annoncé, puisque Christ est prêché, plus ils entendent ce message qui donne toute la gloire à Christ, contrairement à ce que nous avons vu dans le verset 18 de ceux qui parlent de leur chef et cherchent leur propre gloire, voilà le problème. Les gens peuvent tolérer un message qui prêche Christ d'un côté, mais qui donne à l'homme aussi sa place. C'est pourquoi le message que nous entendons aujourd'hui sous guise de l'évangile, ce n'est pas l'évangile, mais les gens prêchent ça comme l'évangile, ils disent que Christ a fait sa part, maintenant c'est à vous de faire la vôtre. Et les gens aiment ça parce que ça leur donne le pouvoir. Pourtant, en ce qui concerne l'évangile, tout le pouvoir réside avec Christ. Mais il y a des gens, en entendant, comme Christ leur annonçait, dénonçait leur mobile et tout ce qu'ils faisaient sous guise, voilà la ruse de l'incrédulité, sous guise d'adorer Dieu, alors ils se sont fâchés. Mais Dieu merci, il y a aussi une troisième réaction, et ce n'est pas souvent, mais c'est lorsque Christ, par son esprit, prenne cette vérité et sème la vérité le concernant au cœur des pécheurs pour qui il est venu dans ce monde, pour qui il est venu donner sa vie, et lorsque il plaît à Dieu de révéler Christ en cela, alors c'est la joie. Ils se réjouissent. Donc, lorsque nous traversons cet évangile selon Jean, et même aujourd'hui, lorsque nous constatons la réaction des gens à ce message qui donne toute la gloire à Christ, c'est la même chose. Il y aura toujours certains qui vont rester dans la confusion. Il y en a qui vont manifester cette haine, comme c'est écrit ici, pourquoi vous irritez-vous contre moi? Mais, Dieu merci, il y aura comme, j'espère, nous, qui sommes en train d'écouter maintenant, il y aura ceux qui, en qui Dieu a révélé son Fils par sa grâce. Et lorsque nous entendons ce message, ça ne nous refoule pas. Parce que nous savons exactement ce que Christ dit, que laissés à nous-mêmes, nous sommes des incrédules, mais par sa grâce, nous l'embrassons et nous nous soumettons à lui, croyant en lui, nous reposons en lui et son œuvre accomplie pour des pécheurs comme nous. Alors, le verset 26, cette même foule qui disait, n'est-ce pas là celui qui cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement. Et ils ne lui disent rien. J'aime ça beaucoup parce que lorsque nous annonçons la vérité, les gens ne peuvent pas arrêter la vérité. Christ a dit qu'il est venu bâtir son église et même les portes de l'enfer ne pouvaient pas l'empêcher d'entrer et sauver qui il veut. Ça, c'est la puissance de l'évangile pour le salut de quiconque croit. Si quelqu'un croit, cette incrédulité ne pouvait pas empêcher le Seigneur Jésus à faire son œuvre. Et voilà ce qui étonne les gens. Christ est au milieu d'eux, au milieu de cette incrédulité. Pourtant, il parle librement. Ça, c'est pour nous encourager aujourd'hui, qui prêchons dans un monde incrédule ce message de Christ. Parlons librement. Il n'y a rien qui peut nous empêcher. D'ailleurs, c'est l'ordre que Christ a donné avant de remonter au ciel, d'aller dans le monde et prêcher cet évangile. Nous ne devons pas laisser l'incrédulité des hommes, même s'il y en a qui veulent même nous faire mourir. Telle est la haine dans leur cœur. Peut-être pas dans le sens de, d'aller nous prendre et nous tuer eux-mêmes, mais ils espèrent que quelque chose arrive où nous serons enlevés de ce monde et voilà, ils seront encore tranquilles. Peut-être ça vous étonne, mais cette même haine est dans les cœurs de ceux qui nous entourent, quoi qu'ils ne le disent pas nécessairement. Donc il les étonne et il parle librement et ils ne lui disent rien. Donc ils disent, est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Là, ça parle maintenant de leur dirigeant. En tout cas, s'ils reconnaissaient qu'il était véritablement le Christ, ils n'allaient pas continuer dans cette incrédulité. Cependant, verset 27, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Vous voyez combien ils étaient aveugles, parce que le Seigneur Jésus, qui était en face d'eux, qui est la vie, qui est la lumière, ils ont dit, nous savons d'où il est. Ils ne pouvaient pas accepter que le Christ soit Dieu dans la chair. Il parlait ici de ses origines. Il est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Donc quand ils disent, nous savons d'où il est, ils ne voyaient que un homme devant eux. Comment est-ce qu'il pouvait être Christ? Et pour eux, lorsqu'ils disent, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Je ne sais pas ce que les gens anticipaient, si ce Christ-là allait descendre du ciel et voilà, maintenant, il va apparaître. Donc, Christ est venu dans ce monde comme un homme. Il était conçu dans le sein d'une femme. Pas par la sémence d'un homme, mais né d'une femme. Et c'était nécessaire qu'un corps lui soit préparé parce que Dieu ne peut pas mourir. Pourtant, la loi exigeait la mort. Donc, c'est pourquoi Christ a pris chair et qu'il a marché sur cette terre. C'est comme l'agneau pascal dans l'Ancien Testament. Il fallait prendre cet agneau et le mettre sous l'observation d'abord, pendant quelques jours. Et lorsque cet agneau se trouvait maintenant sans défaut, on pouvait l'immoler, verser son sang. C'est pourquoi Christ est venu durant toute sa vie sur cette terre, jusqu'à la croix. Il devait être observé comme cet agneau et il devait être trouvé sans faute, sans blâme. Et cela non seulement devant ses ennemis, parce que finalement ils n'ont pas pu crucifier Christ à cause des péchés. La seule raison ils ont pris le Seigneur et l'ont crucifié, c'est parce qu'il se disait fils de Dieu. Il se faisait l'égal avec Dieu. Et voilà ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Voilà ce qu'ils contredisent ici. Ils ne pouvaient pas accepter que le Seigneur Jésus de Nazareth soit le Christ. C'est pourquoi ils disent dans leur aveuglement, mais le Christ, comme s'il y avait un autre. Quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Ils préféraient garder ce mystère que de croire à celui qui était devant eux. Mais c'était nécessaire que le Seigneur Jésus soit observé non seulement par les hommes et ses ennemis, mais par Dieu lui-même. Qu'il soit semblable devant son Père. Et lorsqu'il est, il a été crucifié maintenant, c'est son propre Père qui lui a mis sur cette croix. Et c'est ainsi qu'il a donné sa vie. Et la preuve que le Père a accepté son sacrifice, c'est qu'il a ressuscité encore. Donc tout ce qui concerne Christ avait cette approbation de Dieu. Pourtant les gens ne le voyaient pas. Et donc il restait dans cette incrédulité. Oh, que le Seigneur donne cette grâce de connaître son Fils. Ça ne va pas être par notre propre intelligence. Nous devons tous confesser que cette même incrédulité reste toujours dans nos cœurs. Et si nous croyons réellement en Christ, c'est à cause de son œuvre de grâce. C'est parce qu'il a voulu nous sauver et ne pas nous laisser dans cette incrédulité. Mais la ruse de l'incrédulité, c'est partout, c'est dans notre cœur. Mais Dieu, par sa grâce, a cela pour qui le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé dans ce monde. Et si nous sommes de ce nombre-là, nous devons donner toute la gloire à Dieu pour cette grâce en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.